Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 4h30 en temps universel. 7h30 à Antananarivo. Une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Et ça débute avec la première visite d'un président français à Madagascar depuis 20 ans.
Emmanuel Macron doit atterrir à Antananarivo dans la matinée. Il passera 36 heures sur place pour assister notamment à un sommet de la Commission de l'Océan Indien. Paris qui affiche ses ambitions dans la région mais qui est très attendu sur la question mémorielle, vous l'entendrez. Les violences et les violations des droits humains qui grimpent en flèche en RDC. Alerte des Nations Unies, elle braque particulièrement les projecteurs sur la situation dans l'est du pays. Une plume qui s'envole, mais qui laisse des milliers de pages en héritage. Le philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe est décédé à l'âge de 83 ans. Radié des listes électorales sur décision judiciaire en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'opposant Tidjane Thiam est privé de présidentielle, mais il dénonce ce verdict. On décryptera cette situation ensemble. Quand le foot laisse place au drame et à la colère en Libye, un policier a foncé dans la foule à la sortie d'un derby à Tripoli. Le foot et ses belles heures avec notre reportage ce matin. Visite au musée du foot marocain qui a ouvert ses portes à Salé. Le foot, l'actu sport également au programme, bien sûr. Et puis, un anniversaire célébré depuis hier, les 50 ans de la CEDEAO, la Communauté économique ouest-africaine, anniversaire en demi-teinte après le départ des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. On en parlera avec notre invité, le politologue Gilles Yabi. Soyez les bienvenus sur RFI. Renforcer la place de la France dans l'océan Indien. Après Mayotte et la Réunion, c'est donc sur la grande île à Madagascar qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui. La dernière fois qu'un président français avait fait ce déplacement, c'était Jacques Chirac en 2005. C'est dire si les dossiers à évoquer seront nombreux. L'épineuse question de la mémoire de la colonisation sera sur la table notamment. Elle est importante pour les Malgaches, Pauline Le Troquier.
En 2015, François Hollande avait reconnu une répression brutale de la France sur l'île en mars 47 et évoqué des milliers de victimes, quand les historiens malgaches estiment entre 12 000 et 23 000 le nombre de morts de la répression coloniale. Emmanuel Macron ira-t-il plus loin que son prédécesseur ? La question mémorielle s'annonce en tout cas centrale lors de cette visite. Elle doit sceller la restitution par Paris en août prochain de restes humains pillés pendant la conquête coloniale de l'île. Trois crânes de guerriers malgaches tués par les troupes françaises. L'un d'eux est identifié par la partie malgache comme celui du roi Touéra de l'ancien grand royaume Sakalave, à l'ouest de l'île. La relance des discussions sur le sort des îles éparses s'annonce aussi inévitable que délicate. Elles avaient commencé en 2019 dans le cadre d'une commission mixte dédiée, mais ont été gelées depuis. Pour rappel, Madagascar demande depuis...
Emmanuel Macron, qui participera...
...indien et administré par la France. Des annonces venues du secteur privé français sont par ailleurs attendues. Celles-ci pourraient concerner des investissements dans l'énergie, alors que l'île est confrontée à une grande crise de production d'électricité. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Un petit problème technique tout juste résolu. Emmanuel Macron, qui participera également à Antananarivo au sommet de la Commission de l'Océan Indien. La France participe au titre de l'île de la Réunion. Mais Paris aimerait bien que Mayotte soit également représentée à cette commission, malgré les revendications territoriales des Comores sur ce territoire. Notons également que le président français devait se rendre vendredi à Maurice, mais cette étape a été annulée officiellement pour qu'Emmanuel Macron puisse assister aux obsèques du pape François. Elles seront organisées samedi à Rome en présence de nombreux chefs d'État et de centaines de milliers de fidèles attendus pour l'occasion. Mais d'ici là, cette visite d'État de 4 jours en Chine pour le président kényan, William Ruto, a atterri dans la soirée à Pékin sur invitation de son homologue Xi Jinping. Il s'agira notamment pour Nairobi de débloquer des opportunités dans le commerce, des investissements, des infrastructures, et cela sur fond de guerre commerciale américano-chinoise. Le constat est pour le moins alarmant. En RDC, la situation des droits humains se dégrade considérablement et on le doit à ce qui se passe dans l'est du pays, toujours théâtre de conflits armés. C'est un constat du BCNUDH, le bureau conjoint des Nations Unies, qui planche sur la question. Et les civils, ici, sont les premières victimes, Pauline Azidi.
L'ONU recense pour ce mois de février plus de 1200 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains dans l'ensemble du pays, un nombre en augmentation de 47% par rapport à janvier 2025. Comme pour les périodes antérieures, ce sont dans les provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements, le Nord Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud Kivu, où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois. Le BCNUDH qui alerte particulièrement particulièrement sur la flambée des violences basées sur le genre, plus 152%. Même inquiétude concernant les violations affectant les enfants, plus 137% par rapport au mois de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas. Mais la situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par les Nations Unies, soit une augmentation de 28% dans le reste de la RDC. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète, je cite, l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa, dans le contexte de l'expansion du M23. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC et ce nouveau drame sur le fleuve Congo. Un canot rapide qui faisait la liaison entre Brazzaville et Kinshasa a chaviré hier. L'embarcation comptait 16 personnes à bord. Elle aurait heurté une grume flottant sur le fleuve, ce qui a endommagé le moteur. Plusieurs autres bateaux qui faisaient eux aussi la liaison sont rapidement venus secourir les passagers. Un premier bilan de l'agence congolaise de presse fait état de 5 disparus. Le trafic a un temps été interrompu entre les deux capitales avant de reprendre dans l'après-midi. La RDC et cette alerte sanitaire, alerte concernant l'anthrax, également appelé maladie du charbon, signalée dans la région du parc des Virunga et du lac Édouard au Nord Kivu depuis le 22 mars. Et en un mois d'alerte, plusieurs vaches, des buffles et surtout une cinquantaine d'hippopotames ont été retrouvés morts. Concernant le bilan humain, 8 cas suspects pour l'heure identifiés et un décès également enregistré dans cette zone du Nord Kivu selon le ministère de la Santé. C'est un homme de lettres qui a inspiré de nombreuses plumes et qui nous quitte aujourd'hui. Le philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 83 ans. Il s'est éteint aux États-Unis où il vivait. Personnalité littéraire de premier plan. Né en 1941 à Likasi dans la province du Haut-Katanga, dans ce qui était à l'époque le Congo belge. Auteur de romans, de recueils, de poésie, de mémoires, son œuvre phare, L'invention de l'Afrique, avait marqué les esprits après sa parution en 1988. Un écrivain devenu incontournable des études africaines, comme nous le dépeint Maëline Lelay, chargée de recherche au laboratoire Les Afriques dans le monde du CNRS.
C'est un auteur qui a considérablement marqué son époque et disons tout le champ universitaire à la fois congolais, mais aussi plus largement européen et nord-américain. C'est un auteur qui était à la fois philosophe et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs œuvres qui sont devenues des références de par le monde, donc de l'Europe à l'Amérique du Nord, en passant par l'Afrique évidemment, où il a commencé sa carrière d'écrivain. Et en fait, ce que l'œuvre de Moudimbe et sa réception ont de singulier, c'est le fait que la partie littéraire et la partie philosophique sont en fait assez polarisées dans leur écriture et leur réception, voire cloisonnées. C'est-à-dire que la dimension littéraire de son œuvre, elle a été écrite en français dans une première partie de sa vie, lorsqu'il était professeur à l'Université nationale du Zaïre de Lubumbashi, alors que la dimension philosophique, quant à elle, a été essentiellement été écrite depuis les États-Unis, où il vivait depuis les années 80. Et donc, ce qui fait que Moudimbe est surtout connu dans le monde anglophone pour ses écrits philosophiques et dans le monde francophone pour ses écrits littéraires.
L'hommage de Maëline Lelay à Valentin Yves Moudimbe. Sur la scène politique ivoirienne, il venait d'être désigné par son parti, le PDCI, candidat pour la présidentielle d'octobre. Mais en l'état, Tidjane Thiam ne pourra pas participer au scrutin. C'est ce qu'a décidé en tout cas le tribunal de première instance d'Abidjan hier en le radiant littéralement des listes électorales. La justice retient que Tidjane Thiam n'avait pas la nationalité ivoirienne au moment de son inscription, car il possédait également la nationalité française, mais l'opposant ne semble pas vouloir en rester là, Binta Diagne.
Je n'accepte pas cette radiation, elle est injuste, injustifiée et incompréhensible, souligne Tidjane Thiam dans une vidéo postée hier nuit sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de plan B ni de plan C, insiste le candidat du PDCI actuellement en Europe. Tidjane Thiam dénonce un déni de justice, selon ses mots, tout en appelant, je cite, à un dialogue constructif afin que le scrutin d'octobre soit conforme aux normes internationales et que personne ne soit exclu du processus électoral. Mais pour l'instant, Tidjane Thiam doit à nouveau défendre son dossier ce jeudi devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'agit d'une procédure enclenchée par Valérie Yapo, une militante du PDCI, qui conteste la légalité de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Cette militante estime qu'il avait à cette période-là perdu la nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité. Cet article stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère. C'est précisément cet argument qui a motivé hier le tribunal de première instance à ordonner sa radiation de la liste électorale. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et nous notons dans ce dossier Tidjane Thiam que le tribunal doit encore notifier sa décision à la commission électorale indépendante, la CEI, qui publiera sa liste électorale définitive le 20 juin 2025. Quand le foot soulève des passions, on le verra tout à l'heure avec notre reportage au musée du foot marocain. Mais pour l'heure, quand le football est le théâtre de drames, c'est ce qui s'est passé lundi soir dans la capitale libyenne Tripoli lorsqu'un policier a foncé sur une foule de supporters dans la rue à la sortie d'un match qui opposait les deux équipes de la ville. Plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, Ouda Ibrahim. Et ce policier était chargé de la sécurité du stade.
La vidéo, qui a été regardée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, montre clairement la voiture de police foncer sur des gens sans avertissement préalable. Son allure est folle. Pareil pour les deux autres voitures qui la suivent et qui ont causé également des blessés. Sur la vidéo, on voit plusieurs personnes à terre. On entend des cris de stupéfaction. Parmi les supporters présents, aucun n'a compris le geste de la police, surtout après la fin du match qui s'était bien passé sans aucune violence. Durant la nuit du lundi à mardi, plusieurs voitures de police ont été détruites en signe de protestation et de colère. Le ministère de l'Intérieur a réagi dans un communiqué indiquant qu'il s'agit d'un acte isolé en contradiction avec l'éthique. Le communiqué du ministère affirme qu'une enquête urgente allait être ouverte. Plusieurs fois se sont élevés pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur. Des ONG libyennes demandent à ouvrir une enquête rapide et transparente et à mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes quand ils font partie de l'État. La police à l'ouest libyen est composée d'anciens miliciens qui parfois continuent à agir en tant que tels.
Ouda Ibrahim, 6h41 à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Restez avec nous sur RFI dans quelques instants. L'actu sport et notre reportage ensuite sur celui qui génère le plus de passion et d'engouement, le foot évidemment. Il est à l'honneur au Maroc avec un tout nouveau musée qui est dédié à l'histoire du ballon rond dans le royaume. Quel avenir pour la CEDEAO qui fête cette année ses 50 ans, la communauté économique ouest-africaine affaiblie par le départ des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. On décryptera avec notre invité le politologue Gilles Yabi. Le poids immense de la diaspora dans l'économie du continent avec des investissements massifs et de plus en plus tourné manifestement vers l'immobilier, ce sera notre dossier Afrique Éco. L'humour de Maman, bien sûr, il nous parlera de l'écriture illisible des médecins, tout un art. Mais d'abord, chose promise, chose due, les sports. Et c'est avec vous Victor Missistrano, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et on démarre au Cameroun pour évoquer la fronde des arbitres de foot.
Les arbitres des championnats professionnels masculins et féminins sont en grève depuis lundi. Ils réclament à la fédération camerounaise des arriérés de primes pour un total de 300 millions de francs CFA. La FECAFOOT assure que les matchs prévus cette semaine vont tout de même pouvoir se disputer. À Yaoundé, les précisions de Joël Wadem.
Trois rencontres du championnat de première division sont prévues ce mercredi. Malgré la grève des arbitres depuis lundi, Faustin Bida, le secrétaire général du CTFP, la structure de la Fédération Camerounaise de football en charge de l'organisation des championnats, pense que ces matchs se joueront bien.
Nous avons pris les dispositions pour que les officiels puissent diriger ces matchs-là. Au niveau interne, le président de la Fédération Camerounaise de football a donné des instructions pour qu'on puisse éponger totalement ce qu'on leur doit. On a pris des dispositions pour que dans l'avenir, que cela aille plus rapidement. C'est pour ça qu'à partir de cette 21e journée, nous pensons que beaucoup de choses vont évoluer.
L'Association Camerounaise des arbitres de football pose comme préalable au retour des hommes et femmes en noir sur les terrains le paiement intégral des 300 millions de francs CFA de primes que lui doit la FECAFOOT. L'ancien arbitre international Alioune Sidi est le président de la CAF.
Nous n'avons jamais eu ce problème. On est dépassé. Nous voulons qu'on essaye de payer les arbitres. Nous allons continuer le championnat tranquillement. On a demandé aux arbitres de rester soudés. Et si un arbitre tente d'aller dans l'aire de jeu, nous, l'association des arbitres de football, nous allons les radier.
Si les rencontres prévues ce mercredi ne se disputaient pas du fait de la grève des officiels, ce serait une grande première dans l'histoire du football camerounais. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Au Mali, après plus d'un an et demi derrière les barreaux, le président en exercice de la Fédération de football se serait vu délivrer une ordonnance de mise en liberté, c'est ce qu'indique la presse malienne. Mamoutou Touré, dit Bavieux, est accusé de détournement de fonds publics, des faits supposés s'être déroulés alors qu'il était directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale malienne.
Le foot en France avec la série d'invincibilité du PSG qui se poursuit.
Oui, déjà assuré du titre de champion, les Parisiens n'ont pas perdu cette saison en Ligue 1, 30e match sans défaite hier à Nantes, 1-1. En Angleterre, pendant ce temps, duel capital hier soir dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Succès à l'arraché de Manchester City devant Aston Villa 2-1 grâce à un but de Matheus Nunes dans les tout derniers instants. City remonte à la troisième place derrière Arsenal. Les Gunners qui reçoivent ce soir Crystal Palace, et s'ils s'inclinent, cela officialisera le sacre de Liverpool.
Un mot rapide de basket avec la suite du premier tour des playoffs de NBA, et tout va bien pour Pascal Siakam.
Un deuxième match et deuxième victoire à domicile pour les Camerounais avec Indiana, qui a fait la moitié du chemin contre Milwaukee, 123-115, auteur de 24 points. Le natif de Douala a de nouveau terminé meilleur marqueur des Pacers. Sébastien, rendez-vous vendredi soir pour le match 3 de cette série.
Rendez-vous pris, le journal des sports, Victor Missistrano. 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et la dépouille du pape François qui doit être transféré ce matin en la basilique Saint-Pierre de Rome. Des centaines de milliers de fidèles pourront se recueillir devant le cercueil, ce jusqu'à vendredi soir. Le lendemain, samedi, auront lieu les obsèques. Le Fonds monétaire international qui affute ses prévisions économiques pour 2025, mais qui peine à y voir clair. L'institution estime que les droits de douane annoncés, suspendus, révisés par Donald Trump et les réponses diverses des autres économies de la planète vont peser sur la croissance mondiale. Le FMI estime que la croissance globale pourrait être de 2,8% cette année, soit une baisse de 0,5 points par rapport à ses précédents calculs. 26 personnes au moins tuées dans une attaque au Cachemire indien. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de touristes. Plusieurs médias locaux évoquent ce lourd bilan qui n'a pas été confirmé par les autorités à l'heure actuelle. Et puis Londres qui accueille aujourd'hui de nouveau pour parler autour de l'Ukraine. Des délégations européennes et américaines sont attendues dans la capitale britannique alors que les bombardements russes ont repris dès hier au lendemain de la trêve pascale. Allez, une devinette sur RFI. Si je vous dis que nous venons d'en parler il y a quelques minutes, que c'est un sport et que c'est sans conteste celui qui mobilise le plus les foules, vous me répondrez forcément football. Elle est facile, celle-là. Mais cette passion quasi universelle se vérifie encore au Maroc, où nous emmène notre reportage aujourd'hui pour visiter un tout nouveau musée consacré à l'histoire du foot marocain, 3 ans après une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce musée place dans les yeux des supporters des Lions de l'Atlas les étoiles qui ne figurent pas sur leur maillot, ou peut-être pas encore. C'est Mathias Reynal qui nous fait la visite.
Projet porté par la Fédération Royale Marocaine de Football, c'est au rez-de-chaussée de son siège de Salé que le musée a été installé.
Zaïdou Akrim, conservateur du musée du football marocain. C'est un projet qui a commencé en 2021. Monsieur Fouzel Khaja, président de la Fédération, a fait appel à un comité scientifique qui se compose d'éminents journalistes de la scène footballistique nationale, aussi des experts, des spécialistes de l'histoire du football marocain.
Le résultat, 2100 mètres carrés d'exposition qui raconte plus de 100 ans de football au Maroc, du premier match disputé dans le pays à la fin du 19e siècle à l'épopée qatarienne de 2022.
Le deuxième espace du musée, Terre de Pionniers, c'est un hommage aux joueurs pionniers, donc les premiers joueurs qui sont devenus professionnels, et aussi les clubs pionniers.
Quels joueurs a marqué cette époque?
Oh, moi je peux dire l'Arbi Ben Barak.
Celui que l'on a surnommé la Perle Noire et qui fut en son temps ce qui est le fameux Pelé de nos jours.
Zaïdou Akrim a voyagé un peu partout au Maroc pendant 2 ans pour réunir tous les objets exposés ici.
On a eu la chance d'ailleurs de récupérer des maillots des équipes adverses que nos joueurs ont pu échanger à la fin de chaque match.
Parmi les reliques du musée, le maillot de Romelu Lukaku, porté par l'attaquant belge lors de la victoire du Maroc 2-0 au premier tour de la Coupe du Monde 2022. Avec ce musée, le Maroc met en scène son soft power.
Toujours le football au Maroc a été une sorte de discussion et de contact avec les non-marocains. Et là, actuellement, donc, le musée joue un rôle important dans tout ce qui concerne la diplomatie marocaine. Donc on reçoit des visites de gens très importants.
Est-ce que c'est beaucoup aussi de représentants africains? Parce que justement, le foot, c'est quelque chose de très important sur le continent. Et pour renforcer les liens avec des pays du continent, c'est un beau moyen.
Tout à fait, tout à fait. Comme vous savez, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive bientôt au Maroc en décembre. Les gens s'intéressent plus qu'avant au Maroc.
Dans quelques mois, le Maroc aura une nouvelle occasion de briller, d'ajouter une ligne à l'histoire du football continental en organisant la CAN à la maison. Mathias Reynal, de retour de Salé, RFI.
Les émotions du foot et de la CAN que vous vivrez une nouvelle fois sur RFI, évidemment. En attendant, cette visite du musée du foot marocain est à retrouver, à partager sur Internet. 50 bougies à souffler cette année pour la CEDEAO. Et pour fêter comme il se doit cet anniversaire, la communauté économique ouest-africaine a donné hier le coup d'envoi d'une série de célébrations organisées dans les pays membres à travers l'année. Des membres désormais moins nombreux depuis le départ des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, qui n'étaient pas représentés d'ailleurs hier à Accra où était organisée une cérémonie. On en parle donc ce matin sur RFI avec notre invité Gilles Yabi, le fondateur et directeur exécutif du think tank citoyen Wati. Christophe Boisbouvier lui a tout d'abord demandé si cet anniversaire n'avait pas, dans ce contexte, un goût légèrement amer.
Alors il est certain que cela assombrit la célébration et je dirais la série d'événements qui vont commémorer ce 50e anniversaire. Mais je pense que cette conjoncture difficile n'empêche pas de regarder le chemin parcouru en 50 ans. Et je pense que vraiment la CEDEAO, c'est d'abord un projet, c'est une vision, une conscience de cette volonté collective de penser l'avenir ensemble.
Donc pour vous, cette rupture voulue par l'AES, ce n'est pas un coup mortel?
Je ne pense pas. Je pense que déjà, il faut quand même regarder les faits. La CEDEAO, moins les trois pays de l'AES, du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est 12 pays. L'AES, c'est quand même 3 pays. Donc il n'y a pas de comparaison en termes de nombre d'États membres. Et en plus, le gros poids lourd démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Niger. Le Nigeria fait toujours partie de la CEDEAO, de la même manière que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux autres pays les plus importants, autant sur le plan économique que sur le plan démographique.
Est-ce que certains pays de la CEDEAO à 12 sont tentés par des représailles aujourd'hui?
Je ne pense pas qu'il y ait un état d'esprit de représailles. Ce qu'on peut entendre de la part de certains fonctionnaires à un niveau élevé au niveau de la CEDEAO et de la commission de la CEDEAO n'indique pas une volonté de représailles. Et donc, je crois que tout le monde réalise qu'on n'a pas intérêt, personne n'a intérêt à cette cassure. Donc je pense que l'état d'esprit reste celui de l'ouverture.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec notre invité Gilles Yabi, à retrouver en intégralité dans une cinquantaine de minutes sur RFI vers 7h45, heure de Paris. En attendant, il est donc 6h52 ici dans le studio 32 de la Radio du Monde et on passe à notre rendez-vous avec l'économie africaine consacrée aujourd'hui au poids immense des diasporas. Elle pèse plus de 90 milliards d'euros sur le continent et ce chiffre est en constante augmentation. Des investissements de plus en plus tournés vers l'immobilier. Achat de terrains, location d'appartements, infrastructures, ça s'est constaté jusqu'à Paris où se tenait récemment le salon pour l'investissement dans l'immobilier et les énergies renouvelables en Afrique. L'occasion pour les potentiels investisseurs de chercher des réponses également aux questions encore nombreuses. Sur place, dossier Afrique Éco signé Léonard Jochem.
Elage Sekouifanon souhaite acheter un terrain dans son pays d'origine, la Guinée. Le trentenaire est responsable commercial dans une société de transport maritime au Havre. Il a besoin d'être rassuré par les acteurs de la filière car il a des doutes.
Est-ce qu'aujourd'hui les promoteurs immobiliers à destination, est-ce qu'ils ont des outils ou une plateforme en tout cas qui mettrait en lumière et en transparent justement un point sur la communication pour avoir une vision claire entre l'investissement et le projet qu'on réalise sur place.
Autre zone d'ombre pour Elage, le financement.
Au niveau des notaires, est-ce qu'il y a des investissements qui seront levés de leur côté? Est-ce qu'ils sont en partenariat avec quelques banques?
L'éloignement et le difficile accès au crédit freinent les investissements de la diaspora dans l'immobilier. Les acquisitions immobilières représentaient moins de 5% des transferts d'argent de la diaspora guinéenne il y a quelques années, selon la Banque centrale de la République de Guinée.
Souvenez-vous, il y a un vieil adage qui dit « acheter un terrain, c'est quelquefois acheter un procès ».
Alou Boigné-Nobel est magistrat en Côte d'Ivoire et spécialiste du droit foncier et immobilier. Il est venu au salon présenter son livre « Acheter un terrain en Côte d'Ivoire en toute sécurité ».
On a ça et là des affaires dans lesquelles des personnes estiment avoir perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'investisseurs ou d'acheteurs achètent des terrains dans des lotissements qui ne sont pas approuvés.
En Afrique de l'Ouest, le secteur immobilier grandit, mais moins vite que la demande. En Côte d'Ivoire, il manquerait plus de 800 000 logements. En Guinée, c'est plus de 500 000. Pour combler ce manque, les États changent les règles, comme l'explique Samuel Lequertier, promoteur immobilier en Guinée.
On a un cadre légal aujourd'hui qui a été mis en place à travers la nouvelle constitution à l'époque et qui n'était pas exploité, qui n'était pas développé, qui a mis en fait en place tous les principes de copropriété et donc de pouvoir construire de façon verticale et non pas horizontale, et donc de pouvoir après morceler des immeubles sous forme d'appartements. Et donc c'est pour ça que des acteurs, des promoteurs immobiliers comme nous aujourd'hui pouvons nous appuyer sur ce cadre légal pour développer nos programmes de développement foncier.
Promoteurs, banquiers, constructeurs, tous les exposants se veulent enthousiastes et rassurants. Mais l'optimisme ambiant n'efface pas un doute persistant chez de nombreux visiteurs, l'instabilité politique de la région qui empêche les investisseurs de se projeter.
Léonard Jochem pour Afrique Éco. Allez, on prend le temps de rire un peu sur RFI, c'est important. On retrouve Maman, comme tous les jours. Il nous parle aujourd'hui d'une calligraphie, d'un style très très particulier, d'une écriture illisible, hein, on peut le dire. C'est celle des médecins, Maman, mais ils ne sont pas les seuls à exceller dans ce domaine.
Oui, le Gondwana Lamba a l'impression que les juges et les médecins ont une matière à l'école où on leur apprend à tout faire pour qu'on ne comprenne pas ce qu'ils disent ou écrivent. Ainsi, quand ils regardent l'ordonnance que lui tend son médecin, ben, le Gondwana Lamba a l'impression que c'est un message secret de la CIA, un message codé, chiffré, crypté, pour que les services secrets chinois, nord-coréens, iraniens et russes ne puissent pas en extraire la substantifique moelle. Le seul service secret qui peut déchiffrer ce message, c'est la congrégation des pharmaciens. Ben oui, tu tends l'ordonnance à ton pharmacien et comme s'il savait que tu venais, eh ben sans un mot, il se retourne vers les étagères derrière lui et prélève, avec des gestes précis, à gauche, à droite, en bas, derrière lui, ben les médicaments prescrits sur l'ordonnance chiffrée, crypté, codé. Quand tu le regardes, tu te demandes alors, mais pourquoi ton médecin n'a pas appelé directement ton pharmacien pour lui dire s'il te plaît, donne-lui ça, ça, ça et ça, au lieu de te faire jouer au livreur d'ordonnance avec ton propre argent alors que tu es malade. C'est la même chanson avec les juges gondouanais. Oui, le gondouanais lambda a l'impression que les juges gondouanais aussi parlent une langue d'une autre planète du système solaire, une planète pas très éloignée de la Terre, mais loin quand même, une langue dont le gondouanais lambda connaît les mots, mais seuls les juges en ont la signification exacte. Ainsi, quand il entend à la radio qu'un homme politique ou un haut fonctionnaire, souvent c'est les mêmes, a été mis en examen pour association de malfaiteurs, corruption passive, détournement ou recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, concussion, et j'en oublie, ben le gondouanais lambda attrape sa tête en disant « Pa, ben dis donc, le gars là est foutu, hein, et il va passer toute sa vie en prison !» Puis, le temps passant, le Gondwana Lambda a oublié l'affaire, se disant que le gars est déjà devenu un vétéran de la maison d'arrêt de Gondwana City, notre belle capitale. Mais un jour, par hasard, des mois plus tard, des années même, il entend à la radio que le procès de monsieur mis en examen pour association de malfaiteurs, corruption passive, détournement et recel de fonds, etc., que son procès s'est achevé hier et qu'il a été condamné à 2 mois avec sursis et une amende de $2 gondwanais. Le Gondwana Lambda est obligé d'arrêter tout ce qu'il fait, de marcher, de travailler, pour bien digérer cette nouvelle. Donc, le gars n'était même pas en prison, alors que son voisin Jacques, ben, il est enfermé depuis 8 mois, même pas à la maison d'arrêt, mais à Gondwanamo, sans avoir encore été jugé, parce qu'il est soupçonné d'avoir vendu sa mobilette de travail. Le Gondwana Lambda ne comprend pas cette langue des juges, où quand tu entends les chefs d'accusation contre quelqu'un, ben, c'est toi qui risques de faire une crise cardiaque, alors que lui est tranquille, en toute sérénité sereine, comme disent les hommes politiques. À demain.
À demain, Maman. Allez, avant de retrouver Andréane Mellard qui vous attend déjà pour RFI Matin, on remercie Ryan Bois qui était à la réalisation, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Et merci à vous, surtout pour votre fidélité à la Radio du Monde. On passe un salut particulier d'ailleurs ce matin à Pacifique Mahomba Augustin qui nous écoute depuis Goma en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Andréane Mellard, c'est donc à vous. Place à RFI Matin, bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour aux auditeurs. C'est le début d'RFI Matin. Ravi de vous retrouver jusqu'à 10h, notre tour du monde de l'actualité. Ce matin, on va encore beaucoup parler du pape François dont la dépouille arrive ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome pour y être exposée. Nous y serons avec notre envoyé spécial. On va aussi parler ce matin de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de Madagascar, de la Chine, de l'Inde et bien plus encore. RFI Matin jusqu'à 10h à suivre le journal dans 30 secondes.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.